peut former un gouvernement composé de partis qui ont une majorité simple, c'est-à-dire 76 sièges sur 150, mais ce gouvernement doit nécessairement être paritaire et en général, pas toujours, il doit avoir la majorité des sièges dans le rôle linguistique francophone et néerlandophone, et c'est ça qui est un peu compliqué. Du côté néerlandophone, si vous n'avez pas en même temps l'extrême droite, la NVA, le Parti nationaliste flamand, et le CDND, le Parti démocrate chrétien flamand, vous n'avez pas la majorité dans le collège linguistique néerlandophone. Donc c'est difficile d'un point de vue de l'arithmétique, c'est difficile d'un point de vue politique. Ça serait aussi un gouvernement sans la présence du premier et du deuxième parti flamand, serait très compliqué à assumer politiquement.
Est-ce que les élections législatives ne risquent-elles pas de répéter le résultat du précédent scrutin ?
C'est une hypothèse. Je dirais, si vous regardez toutes les intentions de vote et les enquêtes qui ont été réalisées depuis, montrent en gros une duplication des résultats des élections du 13 juin. Cela dit, il ne faut pas oublier deux choses, je pense. Le premier, c'est que bon, mais chaque élection a sa propre dynamique et sa propre alchimie, si je peux le dire. Et on est parfois surpris, in fine, du résultat par rapport aux anticipations. Donc, presque par définition, c'est très difficile d'anticiper le résultat, surtout si c'est loin de l'élection elle-même. En politique, 3 mois, 4 mois, c'est énorme. Deuxièmement, tout pourrait dépendre de la perception qu'on a dans la presse flamande et dans une partie de l'opinion publique flamande de l'attitude de la NVA. Soit on l'interprète comme le seul parti qui ose résister aux francophones, allant même jusqu'à presque une crise de régime. Soit on l'interprète comme finalement plus un élément de blocage que de déblocage de la situation, auquel cas il pourrait souffrir électoralement de son attitude d'hier. Et bien sûr, il y aura sûrement des électeurs des deux catégories. La question, c'est quel est le niveau d'interprétation. Et ça, c'est très difficile à dire à ce stade, parce que ça dépendra, pour une part, de comment la presse néerlandophone se positionne, pour une part aussi, comment les autres partis néerlandophones se positionnent. Donc, ce n'est pas simple de répondre à cette question. Mais en tout état de cause, vous avez raison de souligner qu'il n'y a aucune garantie que le scrutin permettra de débloquer aisément la situation.
Que peut le roi, concrètement, à part nommer à chaque fois, périodiquement, un nouveau formateur de gouvernement ? Est-ce qu'il peut quelque chose de plus ?
Classiquement, le roi a deux grands pouvoirs en Belgique. Un pouvoir formel qui est de nommer une des personnes en charge de former ou d'organiser la médiation ou de faire une information au terme des élections quand il y a un gouvernement démissionnaire. La deuxième prérogative du roi est une prérogative dite informelle, c'est un pouvoir d'influence, c'est-à-dire le souverain voit qui il veut et dit ce qu'il veut à ses interlocuteurs, en principe dans une logique de ce qu'on appelle de colloque singulier, c'est-à-dire qu'un interlocuteur du roi ne peut pas dévoiler le contenu des discussions. Donc le souverain peut essayer d'influencer les acteurs politiques, mais évidemment le sentiment qu'on a, c'est que philosophiquement, le parti le plus proche du roi, le Parti démocrate chrétien néerlandophone, n'a que faiblement été influencé et son attitude est une attitude en décalage par rapport à ce qu'on peut attendre d'un parti ayant une telle importance dans l'histoire politique belge pour sortir de l'ornière dans laquelle on se situe depuis un an.